Eh bien, merci. Après cette petite pause, nous enchaînons avec la table ronde comme prévu. Je suis très heureuse d'accueillir ici Madame Gabrielle Manzert-Reist, Monsieur Antonello Spagnolo, Monsieur William Horn et Monsieur Christophe Bullard. Je laisse à chacun d'entre vous de vous présenter en quelques minutes, voir en quoi finalement vous êtes intéressé, concerné par la question de l'habitat senior.
Merci beaucoup. Merci, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici. Mon nom est Gabrielle Manzert-Reist, je suis professeure en finance et en économie de l'immobilier à l'Haute École d'ingénierie des gestion du canton de Vaud. Je m'excuse pour le français, je suis suisse-allemande, comme vous entendez. Alors, je m'intéresse aux questions de financement en général, surtout aussi financement du logement et des soins, c'est quand ça devient cher pour les personnes âgées, en fait, et à l'infrastructure qui est nécessaire pour avoir une bonne qualité de vie et aussi pour avoir des coûts qui n'explosent pas, parce que la démographie, on va parler de ça, la démographie va changer beaucoup. Et nous aurons une explosion des coûts pour les soins, pour les personnes âgées, qui est aussi liée à leur logement. On va tout faire pour faire le nécessaire aussi.
On va certainement venir dans le développement de la table ronde.
Professionnelle, je suis cofondatrice et co-présidente d'une coopération qui offre des personnes, des logements adaptés, si vous voulez, protégés au lac de Bienne. Oui, voilà, là, je suis aussi dedans d'une pratique. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Spagnolo, peut-être en deux mots, vous présenter.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Antonio Spagnolo, je suis responsable de la direction de l'insertion et des solidarités auprès du. La direction générale de la cohésion sociale. Je suis concerné par la problématique de l'habitat senior dans la mesure où ma direction est chargée de fixer un certain nombre de normes concernant ce type d'habitat et aussi elle finance un certain nombre de prestations en faveur des personnes qui bénéficient de ce type d'habitat.
Merci beaucoup, Monsieur Villanor.
Bonjour, merci d'avoir organisé cette réunion d'abord. Ensuite, en ce qui me concerne, je m'occupe des personnes âgées comme non professionnelles. Depuis plus de 30 ans, j'ai créé une fondation, la Fondation NetAge à Lausanne, qui a créé des appartements protégés qui sont habités par 75 personnes depuis 10 ans au-dessus de Lausanne. Voilà. Et je représente les vieux.
Merci. Et Monsieur Bullard, enfin.
Voilà, moi je suis Christophe Bullard, je suis médecin gériatre, chef du service gériatrie ici au CHU de Lausanne. Et puis, bien sûr, au quotidien, la question du lieu de vie plutôt que de l'habitat est au centre des projets de vie de nos patients. Et donc, à ce titre-là, on est sans arrêt en train de réfléchir à quelles solutions trouver face à une personne donnée.
C'est très bien, vous vous donnez justement l'occasion pour vous adresser la question qui nous tient aussi, entre autres, au cœur, qui est la principale par rapport à toutes nos préoccupations en lien avec le bien vieillir à domicile, quel est l'habitat ou quels vont être les développements pour un habitat futur. Vous, Monsieur Bullard, quelle est votre vision d'un vieillissement à domicile, en tout cas dans son chez-soi, les plus favorables? Quels sont, d'après vous, les facteurs qui peuvent définir une qualité de vie, disons, telle que peut se percevoir chez quelqu'un?
La réponse courte, c'est de dire, je pense que l'habitat idéal pour bien vieillir, c'est celui qui convient à la personne donnée, c'est-à-dire que c'est profondément individuel. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Quand on regarde et on s'est intéressé auprès de seniors, quand on trouve Genève, à peu près 6000 personnes ont demandé ce qui constituait leur qualité de vie au quotidien. C'est la sécurité, c'est le fait de rester indépendant, c'est-à-dire je peux faire mes activités de la vie quotidienne. C'est le fait de rester autonome, je suis capable de décider pour moi, j'ai ma liberté, on ne m'impose pas les horaires. Et puis c'est des questions de mobilité, d'accès. Et après ça, je dirais, le périmètre de la qualité de vie, il va dépendre profondément de l'état de la personne âgée, précisément. Puis là, on a l'habitude de structurer les choses un peu schématiquement, en disant, ben, il y a des personnes âgées robustes qui sont un peu comme à peu près nous ici autour de la table, il y a des personnes plus vulnérables et des personnes dépendantes. Et c'est clair qu'en fonction de cet état de santé, mais pas seulement de santé, aussi d'interaction sociale, je dirais que le périmètre d'activité va se ratatiner. Et le lieu de vie va donc devoir intégrer là. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, leurs objectifs et le poids qu'ils donnent aux éléments pour juger ce qui est une bonne qualité de vie va dépendre profondément de cet état-là. Et au moment où l'état de santé, en particulier les problèmes cognitifs, vont interférer, la question du lieu de vie devient critique.
La dimension sociale, à partir de votre panorama, elle y apparaît également, j'imagine.
Alors, j'ai trouvé, bien sûr, les trois interventions extrêmement intéressantes. Je suis toujours inquiet quand on a tendance à opposer la santé et le social. Et malheureusement, dans notre canton, c'est le cas. C'est le cas étatiquement, parce qu'on a posé, ben, monsieur, vous présentez la DGCS, et d'un côté, puis il y a la DGS de l'autre. La réalité des personnes âgées, c'est que les deux dimensions sont totalement intégrées, qu'on va devoir trouver un équilibre entre les besoins, les attentes et les préférences de la personne, aussi bien en termes de besoins de santé, de préférences de prise en charge, que d'accès à certaines prestations sociales. Et ça, c'est profondément individuel. Vous parlez de qualité de vie, je raconte, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je répète cet exemple qui pour moi était le plus saillant, d'une dame qu'on a eue il y a maintenant une bonne dizaine d'années dans notre unité de réadaptation, qui est une dame qu'on a reçue et qui depuis 2 ans vivait chez elle à 4 pattes. Avec des coudières et des genouillères. Pourquoi ? Parce qu'un bon docteur lui avait dit, la prochaine fois, madame, que vous chutez, je vous enverrai en EMS. Et pour elle, la qualité de vie à 4 pattes dans son appartement, ce qui pour nous tous, jugé probablement pas comme l'idéal de la qualité de vie, ben c'était mieux que dans la représentation qu'elle avait d'un établissement médico-social. Alors voilà, je pense par rapport à la vision où vous me posiez ça, moi je suis quand même assez, disons, inconfortable avec l'idée de cases et d'étapes où les gens vont changer. J'entendais un des intervenants parler de recyclage du lieu de vie en disant dans le fond, ok, à partir de ce moment-là, c'est un peu l'interprétation que je fais, mais votre ticket est dépassé, vous libérez la place pour un autre qui occupe l'appartement. Ce que nous disent nos patients, et s'ils veulent à 99,9% quand ils arrivent chez nous, rester, rentrer à domicile, c'est bien parce qu'ils sont confortables, c'est leur chez eux, ils ont leurs repères, etc. Et donc, l'idée de la transition, qui la plupart du temps est extrêmement douloureuse, c'est ce qu'ils redoutent le plus. Donc, mon idée est plutôt celle d'un habitat et d'un lieu de vie qui va évoluer avec les besoins des personnes. Et il y a effectivement quelques modèles, au Danemark en particulier, où ils ont réussi à réduire de façon drastique les lieux de long séjour au profit de prestations qui viennent domicile. Cette notion du domicile qui devient petit à petit la structure de long séjour et où on est capable d'apporter les prestations, c'est bien sûr la vision que moi je privilégierais.
Merci. On va avoir aussi au niveau cantonal, c'est pour ça que nous sommes heureux de vous entendre, quelles sont les stratégies, disons, La vision aussi stratégique et politique en ce qui concerne l'évolution dans des logements, des structures de logements pour seniors.
Je dirais qu'au-delà des barrières peut-être administratives qui peuvent représenter ces organisations de l'administration, la vision, elle épouse ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'idée aujourd'hui, c'est de faire de l'habitat une question sociale, socio-économique centrale, en termes de politique de l'État. L'État vise à réduire autant que peu ou à limiter le recours à l'hébergement en EMS, notamment pour des raisons de coûts, mais pas seulement, mais aussi c'est des coûts financiers, mais aussi des coûts sociaux. On sait très bien que vivre dans son propre logement, adapté probablement, ou le fait de l'adapter, éventuellement aussi de déménager dans des logements conçus expressément pour le séjour de personnes, pour héberger des personnes d'un âge avancé, est fondamental pour garantir le maximum leur autonomie, la préserver dans le temps, et donc du coup, par voie de conséquence, pour limiter à terme les coûts en termes de soins, etc. etc. Donc, je pense que ce que l'idée, c'est vraiment, et on le fait déjà aujourd'hui, de développer cette stratégie de soutien à domicile, autant que faire se peut, et puis aussi de favoriser aussi l'information du public. Hein. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé quelques chiffres, juste pour donner une idée du paysage dans lequel on est dans le contexte de l'habitat adapté. Aujourd'hui, on a à peu près 60 sites de logements protégés qui logent à peu près un peu plus de 2000 personnes. Et puis, 40% de ces personnes bénéficient de prestations complémentaires. Voilà, c'est une politique qui amène des fruits, mais gentiment probablement pas suffisamment par rapport aux besoins réels du vieillissement de la population. En regard du vieillissement de la population, maintenant, on peut dire que si on compte les logements adaptés, les logements protégés, aujourd'hui, on a 11% du parc locatif qui est adapté pour pouvoir permettre à des personnes qui sont en perte d'autonomie de continuer à vivre chez elles. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, la politique de l'État, elle est incitative, essentiellement, par l'information. L'information du public, c'est un élément important. Informer des possibilités qui existent pour rester chez soi le plus longtemps possible, parce qu'il y a des choses, des prestations qui peuvent être financées, des soutiens qui peuvent être apportés pour se faire. Il y a des aides financières aussi. Il y a l'eau. Donc, des aides financières à la fois structurelles pour aider le développement de des logements protégés, puis des aides individuelles pour soutenir certaines prestations nécessaires à la poursuite de la vie chez soi dans son logement. Alors, l'État, il est certes très, très intéressé par l'évolution de ce dossier, de l'habitat adapté. Maintenant, son rôle, on se rend compte quand même qu'il y a un rôle quand même qui reste en partie limité, parce que le cadre légal pose comme responsabilité première celle des communes. Les communes sont en premier lieu les entités qui doivent prévoir, planifier l'habitat sur son espace social, et puis sur leur espace social. Et puis là voilà, ça c'est une question aussi, comment on arrive au niveau de l'État, à sensibiliser les communes, à avoir une politique qui est de plus en plus incitative pour faire face à la demande qui va croître de manière très exponentielle à cette échelle.
Vous confirmez qu'on va vers une évolution, disons qu'on a déjà constaté qu'il y a une augmentation très importante, par exemple, quand on voit des logements protégés depuis 5-10 ans, disons 5 ans, donc on peut imaginer que il y aura une croissance.
Oui, la croissance, elle se confirme. Oui. Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir suivre l'évolution du vieillissement de la population, cette croissance.
Oui. Je profite, merci. Je profite pour aussi m'adresser à vous, aussi en tant que aussi bien personne qui a une expérience, elle a des dents, mais aussi en tant que. Donc, dans votre poste de professeur, quels sont, à votre avis, les principaux enjeux économiques, puisqu'on parle c'est quand même un peu au cœur des préoccupations. Évidemment, la préoccupation principale, c'est bien la population, mais il faut pouvoir aussi solliciter la part financière. Quels sont les enjeux, d'après vous?
Oui, alors j'aimerais commencer avec quelques chiffres pour avoir en tête. Aujourd'hui, à peu près 20% de la population est 60 à 65 ans et plus aujourd'hui. Dans 15 années, ce serait 25%. Chaque quatrième personne a 65 ans et plus, et chaque dixième personne aura 80 ans et plus. Alors, c'est une demande énorme pour les appartements protégés ou des places en fait. Alors, j'aimerais commencer en Suisse. Beaucoup fonctionne très bien aujourd'hui. Hein. Qualité de vie des personnes âgées, ce sera sans doute aussi des enquêtes montrent ça. Mais avec le futur, aussi le financement, c'est manageable, on pourrait dire. Hein. Mais ça, le système va atteindre ses limites avec cette évolution démographique. Et ça va être un problème. Et pour les particuliers, les problèmes commencent souvent quand ils ont besoin des soins. Hein. Et on voit, ça y est, il existe des aides financières, mais c'est pas beaucoup. Et en fait, 60% des personnes qui sont dans les EMS, leur rente n'est pas suffisante. Et qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent leur fortune, ce qui est OK, hein, c'est bien. On a... Mais le problème que le système, comme il est aujourd'hui, on peut dire que les services nécessaires à un bon vieillissement doivent être payés par les personnes concernées, une grande partie. Et ça donne des incentives négatives pour faire des épargnes, du point de vue des déménages, en fait. Hein. Et si nous prenons ça sur un niveau macroéconomique, il y a un problème. Les gens, avec le système maintenant, ils n'épargnent plus. Ils dépensent, ils consomment tout, et après l'État paye. Et ça aura des conséquences sur le niveau macroéconomique. Voilà, il faut trouver un nouveau système. C'est compréhensible, mais voilà, c'est un problème. Alors. Et ce n'est pas seulement un problème sur le niveau des ménages, mais aussi pour l'État. Parce que l'État doit payer après ceux qui n'ont pas de l'argent, ça coûte beaucoup. Alors, pour les prochaines 25 années, les dépenses de l'État pour les soins vont doubler. Alors, c'est énorme. Hein? Il faut changer quelque chose. Il faut changer le système. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette explosion des coûts qui vient avec le nombre de personnes, mais aussi avec le système, comment on peut minimiser cette explosion? Et c'est clair, qui va payer ses coûts? C'est le problème. Et c'est ensuite, en Allemagne, par exemple, et au Japon, ils ont des assurances de soins, Pflegeversicherung. En Suisse, on n'a pas encore ça, mais je pense qu'on va avoir ça aussi. Une Pflegeversicherung, assurance de soins, je pense, de longue durée. Et maintenant, à ce moment, ce sont les prestations complémentaires qui jouent le rôle de cette assurance. Mais comme je l'ai dit, avec la démographie, ça ne va plus jouer. Hein. Déjà dans quelques années, alors, on ne sait pas encore comment financer, ça c'est le problème. Hein. Il y a des décisions politiques qui doivent être prises, mais il faut changer quelque chose, c'est clair. Hein. Mais en même temps aussi, il faut d'autres mesures, il faut voir avec que l'infrastructure est présente, que les personnes peuvent rester à la maison le plus long possible, parce que cela a aussi eu un effet positif sur les coûts et aussi sur la qualité de vie. Mais aussi cette dichotomie EMS à la maison, ça va aussi un peu, on aura ça de moins en moins. Parce qu'on a entendu parler d'Elvire Roulet aujourd'hui, il y a des systèmes intégrés, il y a des systèmes intermédiaires. Aussi, ce que vous avez dit, on n'a pas ça ou ça, mais ça, un passage intégral d'un système à l'autre. Voilà, ça, il existe déjà des offres innovantes en Suisse. Il faut de l'innovation, on peut faire des progrès. Et je pense aussi, nous devons repenser la société avec notre aide. Les familles les voisins, les amis, ils doivent soutenir plus de nouveaux. Il faut aussi donner de l'État des incentives pour cela. Ça existe dans les autres pays, mais en Suisse, on a un grand nombre de personnes en EMS. Il faut repenser plus, faire pour la communauté. Ça prend du temps, mais ça vient avec le développement de la démographie, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça.
Bien, merci pour ces avertissements qu'on connaissait en vous, puis vous êtes, disons, vous avez un regard pointu là-dessus. Vous parliez de, justement, c'est sortir de cette dichotomie domicile et MS, et puis on voit justement tout le thème d'aujourd'hui, justement, c'est que ce soit des logements de différentes formes, logements protégés. C'est pour ça que je m'adresse à vous, monsieur Anorne, qui vous pouvez nous parler vraiment comme en tant qu'habitant depuis longue date d'un logement protégé, mais aussi comme pionnier, quelque part, d'une histoire, d'une historique, d'une late age. Dites-nous, la vie en logement protégé, est-ce qu'elle vous permet d'envisager une vie sereinement. Et par contre, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes, ils y arrivent tard, relativement tard. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça déjà, de votre point de vue de locataire déjà, et du point de vue de votre expérience?
Alors, je retire plusieurs constatations. D'abord, le désir des gens qui prennent de l'âge, qui avancent en âge, c'est de rester le plus longtemps possible chez eux et d'éviter le déménagement. Voilà un mot déjà que je veux bien clarifier. Changer de domicile, plus vous êtes âgé, plus c'est difficile. Laissez. Plus vous êtes âgé, plus c'est difficile. Donc, on repousse. Et puis, on repousse aussi l'idée d'aller dans un appartement protégé. Qu'est-ce que ça veut dire, un appartement protégé? Protégé de quoi? Protégé contre qui? Protégé, non, c'est une erreur fondamentale dès le début. On essaye de se débarrasser de cette appellation. Modestement, je dirais, on pourrait la changer par exemple, appartement senior A plus A. Ça a l'air très compliqué, le A plus A est déjà adopté passablement, disons, Fribourg, Berne, et ça veut dire adapté, adaptable, plus accompagné. C'est beaucoup mieux, ça résume bien. Ensuite, dans la notion de protéger, le LP, dans le logement protégé, il est aussi question que c'est non médicalisé. Alors, bon, c'est très bien, mais on a droit, on a l'accès aux soins. Pas dans le cadre de l'institution elle-même, s'il s'agit d'une institution, mais dans le cadre de l'AVASAD, des soins à domicile, avec les CMS ou avec les OSAD, les organisations de soins à domicile qui sont privées, mais qui offrent à peu près les mêmes prestations. Je dis bien à peu près parce qu'elles ont le droit de refus, tandis que les CMS peuvent pas refuser les cas. Donc, il y a une différence. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que l'idée que moi j'avais quand j'ai créé la fondation il y a 20 ans, c'était de dire qu'il fallait créer des structures intermédiaires entre le domicile de la vie active professionnelle et le domicile après. Et ce domicile après, je ne le voyais pas du tout dans ce qui se passe aujourd'hui, où vous avez marqué quelque part que les gens s'intéressaient à ce problème à partir de 75, 80 ans. Eh bien là, moi, je pensais que ce serait autrement. Que ça serait comme ça et pas comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas 75, 80, c'est 85, 90 plus. Et à ce moment-là, vous imaginez bien, moi, je ne suis pas très loin des 90, je n'ai plus du tout envie de déménager, je suis très bien là où je suis, mais j'imagine que de faire des cartons, de déménager de la ville où on a peut-être un 4 pièces, on a une chambre d'amis qui est plus occupée, la salle à manger, on mange plutôt dans la cuisine, de déménager dans un appartement plus petit, il va falloir éliminer je ne sais pas combien de choses, et puis ça va être plus cher en plus. Donc, ça coupe l'envie. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que le logement adapté A plus A, senior, bénéficie d'une promotion pour en faire un lieu de vie où on va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout, mais non pas encore un lieu intermédiaire. C'est ça, je préfère qu'une personne vienne à 65 ans, nous on les accepte à partir de 55, seul ou en couple, vienne un moment et vienne passer 20, 25 ans de sa vie dans ce nouveau logement qui est adapté, il n'y a plus rien à y faire. D'ailleurs, on pourrait construire tous les nouveaux locatifs sur la base des logements adaptés. Ça contiendrait encore un certain nombre de gens plus longtemps à leur propre domicile. Et puis que justement, les logements protégés, comme on les appelle aujourd'hui, servent plus longtemps. Et j'insiste là-dessus parce que le professeur a dit que les problèmes cognitifs interviennent. C'est vrai, mais vous savez, quand on a vécu plusieurs années dans une communauté où chacun est chez lui, mais se retrouve dans les activités communes, il se crée quand même une solidarité magnifique. Et je vois ça tous les jours. Donc moi, je suis un peu déçu que les appartements tels qu'ils existent, il s'en est développé beaucoup de ces appartements protégés, surtout au travers de coopératives. D'ailleurs, nous avons comme partenaire une grosse coopérative. Et ça, je trouve que ça sépare, si vous voulez, le côté social logement du côté sanitaire. C'est pas un gros machin. Même le côté financier sont bien distincts. Le financement des logements, c'est une chose. Le financement de logements de santé, c'est une autre chose. Et voilà, moi, j'aimerais bien qu'on, au lieu de faire un gros tas, qu'on garde des offres différenciées. Et il faut des offres différenciées parce que la société est différenciée. Les origines sociales sont différenciées. Les moyens financiers sont différenciés. Et bon, aujourd'hui, on a de moins en moins de gens qui n'ont pas participé au deuxième pilier. Mais il y en a encore. Et ceux qui n'ont que l'AVS, eh ben là, effectivement, c'est difficile à vivre. Et la Suisse est chère. Quand j'entends, je vois, je connais les prix des EHPAD ou des logements différenciés seniors en France, c'est clair que c'est pas du tout la même chose. Donc là, je reviens vers vous, Madame Van Zandelijk, pour dire que les coûts, je suis d'accord que les coûts vont augmenter et plus nous allons de l'avant, plus les personnes prennent de l'âge, plus elles ont besoin de services extérieurs. Et à la limite, pour pousser à la limite, je dirais que de garder les gens en EMS à domicile revient beaucoup plus cher que les gens en EMS.
Monsieur Bula, justement, on se posait la question dans quelle mesure une vie dans un, on va pas dire structure intermédiaire, mais on va dire un lieu de vie dans lequel on vieillit, mais aussi en jouissant d'un certain nombre d'avantages, je dirais, en plus stimulation en termes d'activité menée, d'échanges avec des pairs. Est-ce que cela pourrait contribuer au maintien aussi de la santé et retarder peut-être quand même une entrée en EMS? Donc, c'est peut-être difficile, c'est juste une appréciation d'après votre expérience.
Vous avez certainement raison. Sur le papier, il n'y a pas photo. Sur le papier, quand on a certaines personnes qui se plaignent de solitude, qui se plaignent de manger tout seul, on se dit, mais la réponse, elle est évidente, vous allez être bien en EMS. Et c'est la réalité qui se passe, quoi. Quelquefois, on doit un peu pousser quelqu'un à accepter ce passage, et où on a une embellie qui dure quelques mois, voire parfois plus longtemps, parce que les gens réalisent que dans le fond, beaucoup des craintes qu'ils avaient par rapport à leur liberté ne sont pas forcément fondées. Mais je pense un des points importants que M. Hanon a soulevé, et je pense qu'il faut le souligner, à l'époque, quand on a fait la politique vieillissement et santé dans ce canton, nous nous sommes penchés sur les évidences qu'on avait sur le fait qu'en maintenant les gens à domicile, on fait des économies par rapport à les placer en EMS. Et on a fait ça pour une raison bien précise, c'est qu'on est encore maintenant en combat avec la partie suisse-alémanique de la Suisse pour le financement de la réadaptation qui permet à des gens justement d'être maintenus à domicile plus longtemps. Vous savez qu'on a à âge égal 20 à 30% de moins de personnes institutionnalisées en long séjour dans le canton de Vaud par rapport à la moyenne suisse. Malheureusement, on n'a pas pu le prouver. Ce qu'on investit ou ce qu'on économise en plaçant les gens plus tard, on le paye en termes de soins à domicile. Fondamentalement, c'est extrêmement compliqué de faire ces comparaisons parce qu'on compare deux choses qui sont très différentes, des gens à domicile et des gens en EMS, c'est pas les mêmes. C'est juste pas les mêmes. Et ça, c'est important de le maintenir. Donc oui, c'est vrai, ça va être un problème, mais je pense que le modèle tel qu'il est dans le canton de Vaud, il a l'immense avantage de répondre à la demande des gens. La plupart des gens veulent vieillir et ils veulent mourir à domicile. Et là, on n'y est pas encore. Hein, on n'y est pas encore. Donc oui, sur le papier, par rapport aux questions initiales, de dire ça paraît une évidence, mais une fois encore, le nombre de personnes avec qui on est confronté disent bon, « J'entends bien vos arguments, vous avez sans doute raison, mais quand même, j'aimerais bien rentrer à la maison, c'est chez moi. » Et donc, je pense que de trouver un moyen qui permette de combiner cette approche et cette vision, les prestations, je me souviens des premières discussions qu'on a eues autour des appartements protégés. Une des craintes qu'on avait, c'était de dire, point 1, est-ce que ça va juste être une autre étape intermédiaire, puis on rajoute une couche au millefeuille, c'est-à-dire que non seulement je fais le deuil de mon appartement, de mon chez-moi, mais en plus je vais devoir faire celui de l'appartement protégé. Les dernières informations que moi j'avais, c'est de dire, c'est à peu près 15% des gens en appartement protégé qui doivent transitionner vers l'EMS. Donc, ça, je trouve, c'est un succès. Ça veut dire que la majorité des gens restent là grâce à cette adaptation et ils restent là. L'autre point, l'autre question, et qui, à mon avis, n'est pas très différente de celle des MS, et ce qu'on entend aussi des gens, c'est de dire, mais ouais, c'est bien joli, c'est des ghettos. Alors, la réponse, c'est de dire, OK, on fait des projets qui sont intergénérationnels, on va mettre une école, une garderie, une crèche, et puis on a des patients qui nous disent, mais... tous ces gamins qui crient, etc. Donc, une fois encore, la solution pour moi, elle est individuelle. Et puis, j'ai très peur de modèles comme ça qui seraient imposés et posés. Je suis peut-être complètement biaisé en ce moment parce que je lis un excellent bouquin sur le rideau de fer et la façon dont les pays de l'Est ont évolué à l'époque. Et typiquement, on est arrivé avec des modèles comme ça, avec des idées préconçues, dire la famille c'est comme ça, l'immeuble c'est comme ça, puis les gens faire, et puis on s'aperçoit que ça ne correspond pas à ce que les gens veulent. Et l'autre crainte que j'ai, c'est de dire, j'ai 63 ans bientôt dans quelques semaines, je suis incapable de dire, de me projeter réellement dans qu'est-ce que je voudrais, et les jeunes générations, quand j'entends que l'attrait pour l'appartement protégé, c'est les activités sociales, le contact social, et qu'on voit qu'on a une société qui devient quand même de plus en plus individualiste, je ne sais pas, est-ce que les gens vont quand même évoluer avec le temps parce qu'il y aura des besoins, il y aura du besoin d'assistance, ou bien est-ce qu'ils vont rester dans une bulle où sera du chacun pour soi, et on n'a juste pas envie d'aller dans la salle à manger commune ou faire l'activité commune, je ne sais pas.
Quand d'entre vous voudrait rebondir sur cette question aussi, savoir, au fond, quelle est la part participative de la conception, enfin de comment on peut imaginer être l'évolution de ces lieux de vie par les gens qui, soit par les gens qui y habitent déjà, c'est les gens qui, justement, les premières concernées, ceux qui vont, même si c'est difficile, comme vous dites, quand même, peut-être, de se projeter. Hein. Quelle est la part de l'apport des personnes qui sont directement concernées sans qu'on n'attend pas des décisions qui viennent d'en haut. Moi, est-ce qu'on peut solliciter peut-être davantage, est-ce que c'est un élément qui vous semble important, la vie des personnes concernées?
Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais je voudrais rebondir par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à présent, puis il y a, par rapport à cet élément, ce constat de l'atomisation de notre société, puis cette nécessité de maintenir, voire développer la solidarité, notamment. Et puis ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit, le fait de pouvoir informer les populations en amont de ce qui pourra, des possibilités quand on sera plus âgé, mais aussi le fait d'intégrer autour d'une vie communautaire. Les différentes composantes de la société. Et puis ça, c'est un parti pris de l'État parce qu'on finance aujourd'hui les projets pilotes, les quartiers solidaires, par exemple, qui visent à créer, à générer ou soutenir cette solidarité entre les générations. Donc c'est très volontaire, hein, comme approche. Après, je ne sais pas si elle aura le succès escompté, Mais voilà, aujourd'hui, on est en train de le faire. On mise là-dessus. On mise sur le fait de créer des contextes qui favorisent le plus possible la solidarité. Et ça, alors, ça peut être dans des quartiers, ça peut être avec le développement. Il y a un projet qui s'appelle Metamorph House aussi qui vise à investir les quartiers villas pour développer plus de vie communautaire entre les générations, en utilisant mieux le sol, etc., qui est immobilisé dans ces parcelles individuelles. Et il y a un tas de projets comme ça qui vont dans le sens de générer plus de solidarité afin de soutenir, que les personnes apprennent à se soutenir les unes les autres. Et ceci pour éviter de vraiment l'inflation de soutien après artificiel qui doit être construit par l'État, par d'autres entités, pour venir en soutien de la population qui est en perte d'autonomie. Donc ça, c'est un axe qui me paraît aussi important de souligner.
Et peut-être M. Nord, qui voulait intervenir. Et puis...
Oui. Vous avez utilisé le terme intergénérationnel, c'est le grand mot aujourd'hui. Tout doit être intergénérationnel. Oui, jusqu'à un certain point. Vous avez parlé des enfants qui braillent. Nous, on a pris le choix, et ça fait longtemps. On n'a pas d'activité nocturne, par exemple. On n'a pas de boule à tango. On n'a pas d'ados qui ont envie de vivre et de s'exprimer. On n'a pas de joueurs de basket sous les fenêtres. Mais heureusement, ils sont très bien. On a évite trois épaisseurs, ça va très bien. Mais voilà. Mais on est intergénérationnel. On a des gens entre à peine 60 ans et 95 ans. Ça fait pratiquement trois générations. Mais trois générations entre lesquelles il y a presque naturellement une solidarité parce qu'il y a un partage quand même d'expérience de la vie. Les plus anciens peuvent dire aux autres, tiens, nous, on n'a pas eu ce que vous avez eu, mais c'est intéressant. On a pu faire sans. Maintenant, moi, je connais chez mes grands-parents, dans la banlieue parisienne, qui avait une magnifique maison en campagne, mais c'était les toilettes au fond du jardin. Et je suis encore là. Chez nous, on a des douches à l'italienne. Hein, qui devient très naturel. On a abandonné la baignoire, mais même les jeunes générations abandonnent la baignoire. Donc il y a des concepts qui ont mis extrêmement longtemps à se concrétiser et puis qui sont déjà démodés. Donc ça va, la société est en pleine mutation et ça va encore changer très rapidement. Donc, il faut être très agile, pour utiliser un mot d'aujourd'hui. Il faut être très agile. Et je pense que quand on a conçu les appartements protégés, il y a maintenant quelques années, on est arrivé à définir des espaces qui sont pratiquement indispensables pour une vie de bien-être. On a pas beaucoup parler des jardins, des ouvertures. La pandémie d'aujourd'hui nous montre bien qu'il faut inclure un dispositif extérieur, loggia, balcon ou jardin, que ça devient une nécessité absolue, même pour garder le contact, parce que même sans serrer la main, on peut se dire salut, on peut s'asseoir sur la terrasse et puis quand même, avec le masque, boire un verre, il fait beau, profiter. Donc, il y a toute une vie sociale qui s'établit. Et les solidarités, vous seriez étonnés de voir les solidarités qui s'exercent dans un petit immeuble où vous avez 8 appartements. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'y passe. En plus de la solidarité de la communauté. Donc, les solidarités, moi, j'y crois beaucoup. Et je ne crois pas qu'il faut les forcer absolument. En revanche, les libertés, j'y crois aussi. Et il ne faut pas trop y toucher.
Merci, monsieur Arnaud. Peut-être le dernier mot, bon, puisque le temps file.
Oui, oui. En fait, j'aimerais suivre ce que vous avez dit aussi, vous, en fait, avec Il dit qu'il faut repenser la société exactement dans cette direction. Et je crois aussi dans la solidarité. Ça existe. Et ça donne aussi de la satisfaction aux personnes. Hein.
Bien sûr.
Tout doit être payé. Hein. Il y a des personnes qui sont aussi qui sont en retraite, en bonne santé. Il y a beaucoup, hein, parfois. Je dis, waouh, cette personne est déjà en retraite. Et ça donne de la satisfaction. Et il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Et ça, il faut encore, mais on peut aider un peu, mobiliser. Alors l'État a aussi un rôle, vous faites votre job. Mais aussi de cet immeuble que je suis dans, mais la coopérative que j'ai confondée, nous observons ça aussi. C'est les locataires, ils ont un écosystème, ils fonctionnent très bien. Et aussi avec le village, je ne sais pas aussi où c'est, mais je pense que la société est en train de changer. Voilà. Et nous devons, parce que tout le monde est touché. Avec la démographie, ça va changer. Nos enfants auront moins d'argent dans la poche. Il faut payer aussi gérer les coûts, c'est clair. Ils auront moins d'argent, c'est comme ça. On ne peut pas changer, c'est le système.
Merci, ça c'était le dernier mot. Il va falloir prendre compte de cette situation sur le plan économique. Je vous remercie pour votre participation. Très, très précieuse.